Bienvenue sur les podcasts de Blast, un média indépendant créé pour redonner du souffle à l'information. Blast vous propose un autre regard sur l'actualité à travers des reportages, des décryptages, des enquêtes et des entretiens que nous avons décidé de convertir ici en podcast. Notre ambition, devenir votre média de référence et ainsi peser dans la bataille de l'information qui s'annonce et qui sera décisive. Les podcasts de Blast. Les idées. Avec Salomé Saké.
Ces dernières années, le traitement qu'ont subi les femmes dans le milieu du cinéma depuis des décennies a été rendu public. Entre violences sexuelles, propos dégradants, stigmatisation et sexisme ordinaire, nous prenons peu à peu la mesure du problème.
J'essaye d'alerter les gens qui sont autour de moi et je leur dis « il y a Gérard qui met sa main dans mon short ». Et à ça, il m'a répondu « bah quoi, je croyais que tu voulais réussir dans le cinéma ».
J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre.
C'est pas seulement lui qui est une crapule, c'est tous les autres qui le laissent l'être.
Des femmes se lèvent une à une pour dénoncer la gravité des actes et appeler à un changement.
Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive?
N'accordons pas des héros révolutionnaires ou humanistes pour nous lever le matin en sachant qu'un réalisateur a abusé une jeune actrice et ne rien dire.
Dans le milieu du journalisme, ce mouvement MeToo tarde à prendre de l'ampleur. Si en 2017, la journaliste Anne-Saura Dubois déposait plainte pour harcèlement sexuel et moral contre son chef Éric Monnier à France 2, et si la journaliste Astrid de Villene déposait plainte elle aussi peu après contre son confrère à LCP Frédéric Aziza pour agression sexuelle, les deux plaintes n'aboutiront pas à une condamnation et ne donneront pas tout de suite lieu à une libération de la parole de grande ampleur dans le milieu médiatique. Puis, l'affaire PPDA a fini par être un séisme, mais il a fallu que des dizaines de femmes parlent pour qu'elles puissent être crues. Sans parler de l'affaire Jean-Jacques Bourdin, accusé d'agression sexuelle lui aussi, mais qui a pu reprendre son travail sur Sud Radio. En 2021, nouveau séisme. Une journaliste va donner une voix à beaucoup d'autres sur l'état du sexisme dans le milieu du journalisme sportif. Elle s'appelle Marie Portolano et son film « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » va faire l'effet d'une déflagration. Plusieurs journalistes connus sont mis en cause, dont Pierre Ménès, et on réalise, preuve à l'appui, que nous avons collectivement accepté des agressions sexuelles en direct à la télévision sans que cela ne fasse scandale.
Sans avoir plusieurs entrées, je l'embrasse.
Irremplaçable.
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 Avec son film, c'est toute une culture sexiste qui est remise en cause et la souffrance des femmes qui est enfin documentée dans un long métrage. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car cette parole dérange. Donc non seulement une partie du documentaire va être censurée, mais le film va carrément être retiré des plateformes juste après sa sortie. Aujourd'hui, son autrice revient avec un livre où elle persiste et signe pour dénoncer et décrire l'ambiance sexiste et les délits commis dans le milieu du journalisme. Une contribution importante à un mouvement MeToo dans le journalisme qui n'en est probablement qu'à ses prémices. Marie Portolano, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste depuis plus de 15 ans. Vous avez longtemps été dans le journalisme sportif. Aujourd'hui, vous co-présentez La Matinale sur France 2, Télématin. Vous êtes également réalisatrice du documentaire qui a fait beaucoup de bruit, « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », réalisé en 2021 pour Canal+. Et aujourd'hui, vous présentez votre premier livre, « Je suis la femme du plateau » aux éditions Stock, où vous racontez le sexisme dans le milieu du journalisme. Et vous commencez le livre par cette anecdote. Vous racontez un entretien d'embauche après la diffusion de votre documentaire sur le sexisme dans le journalisme, donc c'est quand même cocasse. Et le directeur de la rédaction qui vous reçoit vous dit, je cite, « J'ai vu ton documentaire, alors j'ai pensé, c'est formidable, cette fille a un cerveau. » Et vous expliquez que ça vous a fait l'effet d'une gifle. Pourquoi est-ce que ça vous a fait l'effet d'une gifle, cette phrase en particulier ?
Parce qu'il me dit qu'il me suit depuis des années. Il me dit qu'il connaît mon travail, qu'il est fan de foot, donc qu'il a suivi vraiment ma carrière depuis vraiment le tout début où j'ai commencé à Beansport. Et il me dit, oui, je t'ai vu là. Donc je me dis que pendant 10 ans, il a pensé que j'étais débile.
Alors que pourtant, vous avez fait votre travail avec beaucoup de professionnalisme.
Oui, est-ce que... voilà. Et surtout, je me dis, mais s'il me dit cette phrase-là, ça veut dire qu'il n'a pas vu le documentaire. C'est impossible qu'il ait regardé le documentaire et qu'il puisse me sortir un truc pareil.
En fait, ce que vous décrivez dans le livre, c'est évidemment des délits, dans certains cas, des choses qui sont très très graves, et d'autres qui relèvent plus de l'ambiance sexiste, de cette espèce de présomption d'incompétence qu'on a envers les femmes, je pense de manière générale dans le journalisme, mais ça a l'air quand même particulièrement marqué dans le journalisme sportif. Et quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous dites que la question qu'on vous pose le plus depuis le début de votre carrière, vous qui parlez de sport, vous qui parlez de football, c'est « est-ce que t'aimes vraiment le football ?»
Ouais,
ce à quoi vous répondez bah, « non, j'ai fait toute ma carrière là-dessus, mais
je déteste ça, je ne peux pas traquer. »
Pourquoi est-ce que, selon vous, cette question revient autant ?
Mais en plus, ce qui est étrange, c'est que c'est une question qui m'est posée par des gens que je considère hyper intelligents. Donc, c'est-à-dire, ça vient de n'importe qui. C'est ce que je dis dans le livre. Ça vient du chauffeur de taxi à ma tante, qui me dit « mais t'aimes vraiment ça ?» Et je pense que c'est tellement pas ancré qu'une femme puisse parler de sport professionnellement que les gens sont encore dubitatifs quant à ce choix-là. Alors après, aujourd'hui, je pense que c'est mieux, mais il y a 10 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de femmes, donc c'était vraiment, mais vraiment. Alors après, ceux qui me connaissent vraiment très très bien savaient que c'était vraiment ma passion.
Oui, vous décrivez une passion depuis l'adolescence, en fait.
Ouais,
depuis
ouais.
Très jeune, vous avez cette passion pour le football, vous en faites votre métier, mais ce que vous décrivez, c'est que vous allez passer votre carrière à prouver... Ouais. Que vous êtes légitime à prouver que vous avez votre place sur ce plateau et que vous n'êtes pas justement la femme du plateau, juste la potiche qui serait là pour faire joli et que vous avez de vraies compétences, de vrais commentaires à apporter, des interviews à réaliser. Et alors, il y a vraiment beaucoup d'anecdotes qu'on ne va pas pouvoir toutes détailler ici. Pour ça, il faudra acheter votre livre. Mais il y en a une autre qui m'a interpellée, c'est le fait qu'en février 2016, vous travaillez donc pour une grande émission de football depuis 2 ans. Et là, à l'occasion de la 300e de cette grande émission, la rédaction réalise un best-of. Un best-of de ces 300 émissions de 7 minutes qui ne contient pas une seule image de femme, alors que vous avez été 4 à vous succéder sur ce plateau. Est-ce que sur le coup, vous réalisez que c'est vraiment du sexisme ?
Ah ouais.
Ou vous croyez à ce « non mais c'est du hasard, ça n'a rien
à
voir ».
Ah non, non. Moi, alors je suis très contente que vous me parliez de ça, parce que c'est la première fois qu'on me cite cet exemple dans le livre, alors que pour moi, il est hyper important. Concrètement, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est quelle est notre place ? Si on n'existe pas, nous les femmes, dans un best-of, donc best-of c'est meilleur moment de l'émission, qu'est-ce qu'on attend de nous en fait ? Donc effectivement c'est un exemple hyper important. Sur le moment quand je vois le best-of, et en plus, c'est ce que je dis et je le souligne, c'est pas une colère personnelle, vraiment je suis énervée pour moi et mes consoeurs. Parce que je me dis, mais pourquoi on n'existe pas dans ce best-of-là ?
Et ce qu'on vous répond, c'est que simplement, il n'y avait pas de moment.
Non, il n'y avait pas de moment, alors que dans les meilleurs moments, je me souviens très bien, parce que vraiment, j'avais trouvé que l'excuse qui m'avait été donnée était vraiment mauvaise, puisque j'avais re-regardé, et il y avait plein de moments où les gens s'esclaffaient. Et on aurait très bien pu faire un plan de coupe et montrer les femmes qui se sont succédées sur le plateau, même si ça aurait été déjà très sexiste de montrer juste les femmes qui se sont succédées, mais au moins on existe. Là, on n'existe pas du tout. Il y a zéro image. Et quand on entend les commentaires, parce qu'il y en a quelques-uns, on ne nous voit pas. On entend juste de loin. Alors, il y a une seule image, quand même, et c'est cette image qu'on doit retenir. C'est l'image d'une journaliste qui se fait embrasser par surprise par un chroniqueur sur le plateau.
Voilà. Ils ont considéré que ça faisait partie...
Des meilleurs moments.
Des meilleurs moments.
Voilà.
Donc, ce que vous décriviez déjà dans le documentaire, on reviendra un petit peu plus après sur le contenu de ce documentaire, mais c'était des agressions sexuelles, c'était des choses qui relevaient quand même du... qui entravaient la loi. Mais ce que vous décrivez aussi dans le livre, c'est cette ambiance sexiste, oui, sur laquelle je voudrais qu'on s'attarde, parce que je trouve qu'on en parle moins, alors qu'elle crée ce terreau qui permet aussi les agressions sexuelles, qui permettent ces comportements qui sont complètement inadmissibles. Et quand j'ai lu votre livre, honnêtement, j'ai été vraiment bouleversée en tant que journaliste, parce que je me suis reconnue dans beaucoup de ces moments, qui ne sont pas forcément des moments d'agression sexuelle, mais qui sont des moments de malaise, qui sont des moments où on est disqualifié, où on ne sait pas quelle est notre place, où on évite l'agression sexuelle en permanence. Oui, et où on va nous faire des commentaires après, non, mais c'était de l'humour. Et donc, il y a une anecdote qui illustre, je trouve, très très bien cette ligne de crête qui est parfois très difficile à tenir, surtout voilà, en tant que jeune femme. C'est celle qui relève pour moi du harcèlement sexuel. Vous décrivez votre première expérience dans une rédaction en construction. Alors, vous êtes embauchée pendant les grandes vacances et vous vous retrouvez un peu, par la force des choses, à développer une relation, enfin une relation, une proximité en fait avec votre rédacteur en chef, parce que vous êtes tous les deux dans des bureaux déserts en plein été, donc forcément vous mangez ensemble, vous expliquez que vous déjeunez tous les jours avec lui à midi dans un des rares restaurants qui est ouvert et qui jouxte la rédaction, lui il boit du vin, vous ne l'accompagnez pas, et en fait au fur et à mesure, il se confie de plus en plus à vous sur sa vie personnelle et sur ses difficultés de couple, sur son divorce. Et je vous cite, hein, vous faites l'erreur de le relancer et de vous intéresser poliment à sa vie. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose que beaucoup de femmes, pas que dans le journalisme d'ailleurs, pourront comprendre. C'est le fait qu'on est face à un supérieur. Évidemment qu'on a envie d'avoir une bonne relation avec ce supérieur, surtout quand on débute un travail. Ouais. Et ce supérieur va prendre ça, visiblement, pour une porte ouverte.
C'est ce que je me dis, ouais.
Et plus la conversation avance, plus il se confie sur ses rapports avec les femmes. Et il faut rappeler quand même qu'il a deux fois votre âge, hein, vous avez 20 ans à l'époque. Et un jour, après une bouteille de rouge, il vous attrape subitement la main, vous regarde dans les yeux et vous lance « Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux ?» Vous dégagez votre main, il reprend ses esprits et il se lève comme si c'était pas vraiment arrivé, quoi, comme si c'était une espèce de malentendu. Mais ça va pas s'arrêter là. Malgré le fait que vous ayez montré clairement un refus, puisque déjà vous expliquez que ça, cet épisode-là, ça vous a bouleversé, mais plus tard, il va vous raconter qu'il adore faire l'amour avec les femmes dans les parkings, et tout ça en vous emmenant dans un parking. Et donc, de prime abord, tout ce que je viens de décrire, ça peut ne pas paraître si grave. Il ne vous a pas agressé, il ne vous a pas forcé, mais vous expliquez que ça a été difficile à vivre, en fait, cette situation d'entre-deux, de malaise, l'idée qu'à tout moment, ça peut dégénérer et que c'est à vous qu'incombe la responsabilité, finalement, que ça n'aille pas là où vous ne voulez pas que ça aille.
Et c'est exactement ça. Parce que concrètement, ce que je dis, et vraiment c'est ce que je pense, c'est que lui sort cette phrase et ces mots-là sans y réfléchir. Et il ne se rend pas compte qu'il est dans une position vis-à-vis de moi qui est une position de domination, qui est une position de pouvoir. Donc, quand il me dit « j'aime bien faire l'amour dans les parkings » et après, pour rire, il me dit « ah, tiens, on est dans un parking, tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure ?» Il ne se rend pas compte dans quelle position il me met moi, qui suis inférieure à lui à ce moment-là. C'est-à-dire que concrètement, un homme que je rencontre dans la vie de tous les jours qui me dit un truc comme ça, je l'envoie balader. Je lui dis « écoute, t'arrêtes tout de suite, on n'est pas des copains. » Là, c'est mon supérieur hiérarchique. Donc, quelle position dois-je adopter pour gérer ce genre de situation? Et c'est vraiment très, très important parce que cette ambiance, comme vous disiez, de sexisme, une ambiance un peu particulière, elle conditionne ma manière de travailler après. Puisque pendant des jours, j'ai cherché à l'éviter, j'ai cherché à trouver les bons mots pour pas qu'il comprenne que peut-être j'étais trop familière ou machin. Alors que lui, je pense qu'il a complètement oublié ça. Il dit la phrase et ensuite il rentre chez lui, il oublie qu'il m'a dit ça. Alors que moi, j'ai passé tout le week-end à y penser.
Mais c'est pour ça que c'est un livre qui est important. Parce que ça permet, évidemment, aux femmes qui nous regardent, peut-être de se sentir moins seules. Parce que vraiment, je pense qu'on est beaucoup.
Oui, dans tous les milieux,
je pense. On est beaucoup à avoir subi cette situation où on a tellement peur qu'ils comprennent la mauvaise chose et qu'après, on se retrouve dans une situation hyper délicate et on ne veut surtout pas se retrouver dans la situation du rejet.
Oui,
parce qu'on sait que l'ego blessé d'un supérieur masculin peut nous coûter cher en termes de carrière, surtout dans un milieu compétitif. Mais c'est un livre important pour les hommes aussi, pour comprendre ce qu'il y a dans la tête des femmes et pour comprendre que ce qui peut leur paraître comme un comportement complètement anodin, où ça va, lui, il rigole... il se prend pas la tête, il a pris son petit verre de rouge. En fait, ça peut engendrer un immense mal-être, de la peur. Vous le dites, hein, pendant des jours, vous allez guetter, tout mettre en œuvre, des stratégies pas possibles pour pas le croiser. Parce qu'en fait, ça nous met vraiment dans une position, vous l'avez dit, d'infériorité, où on est en fait soumise à ces décisions et à ce pouvoir-là. Et il tient aussi aux hommes de ne pas continuer ça, même si, encore une fois, c'est pas forcément enfreindre la loi, quoique ça peut quand même relever du harcèlement sexuel à mes yeux, ce que vous décrivez. Il y a un autre épisode, vous expliquez qu'un autre supérieur, plus tard, très haut placé, vous demandera, par exemple, dans une voiture, donc ce qui est quand même un contexte particulier, vous êtes dans un espace clos, un bisou sur la bouche, ce que vous n'allez pas faire, et qu'il râlera parce que vous le refusez. Et vous, vous parlez, vous utilisez le terme d'emprise, car c'est votre chef et qu'il est très haut placé dans la hiérarchie, donc même, finalement, même histoire. Et la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce qu'il se passe si je le repousse ?
Oui, qu'est-ce qui se passe si je lui mets ma main au visage ? Ce que j'aurais fait si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Ben, qu'est-ce qu'il fait ? Quoi ? Il se débarrasse de moi. Moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, si je réagis comme j'aimerais réagir, c'est terminé. Je ne travaille plus, c'est lui qui m'embauche. C'est lui, en plus, il est encore plus haut placé qu'un rédacteur en chef. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très important dans la hiérarchie. Donc, s'il considère que j'ai été méchante avec lui, qu'est-ce qu'il va faire de moi ?
Et vous avez eu d'autres témoignages de consoeurs qui ont vécu le même type de situation extrêmement malaisante ?
Mais tellement, mais de toute façon dans tous les milieux. Quand le documentaire est sorti, j'ai reçu des, vraiment j'exagère pas en disant des centaines de messages de femmes qui venaient de corps de métiers totalement différents et qui me racontaient la même chose, exactement les mêmes exemples, la même emprise, la même position d'infériorité, le même moment où on se sent mal à l'aise, la même ambiance de sexisme systémique en fait dans le milieu de l'entreprise. Donc je pense que c'est pas seulement inhérent au journalisme de sport, même si, évidemment, on est tellement en minorité, nous, les femmes, dans le journalisme de sport, que c'est peut-être un peu plus prononcé.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 15 ans de carrière, et on voit que ça dure toute votre carrière, en fait.
Oui,
ça ne s'arrête pas. Oui, c'est, d'ailleurs, vous ouvrez le livre avec cette fameuse anecdote. Oui. Alors, vous avez déjà produit ce documentaire sur le sexisme. Et toute votre carrière, en plus de devoir faire votre travail, de devoir montrer peut-être plus de compétences qu'un homme pour le même poste, vous devez faire attention à tout le temps, à tous les hommes qui vous entourent pour ne pas être agressé, pour ne pas être humilié, pour ce qui va quand même vous arriver à certains moments, et vous expliquer que vous avez dû accepter en ricanant qu'on vous parle de vos seins qui seraient trop petits pour l'antenne ou de vos fesses qui seraient trop larges pour un pantalon. C'est des commentaires sur votre physique, des commentaires sur vos compétences. Vous devez également voir d'autres femmes sous vos yeux qui sont victimes des mêmes commentaires. Et ce que vous décrivez, c'est que bah, vous rigolez, un petit peu gêné, vous voulez offenser personne. Pourquoi est-ce que vous ne dites rien ?
Alors ça, c'est une très, très grande question. Et moi, je me suis posée vraiment souvent cette question-là de est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est moi qui encourage ce genre de comportement envers moi ? Parce que, par exemple, ce chef avec qui je discute, quand il commence à me parler de ses histoires de cœur, je devrais lui dire « je m'en fiche en fait, j'aimerais qu'on parle d'autre chose ». C'est ce que je devrais dire, mais je n'y arrive pas. Et il y a des femmes qui sont hyper fortes pour ça. Moi, je connais des gens, même des bonnes amies, qui sont très très fortes pour dire « écoute, on n'est pas là pour ça ». Et pour autant, elles sont toujours en poste et elles n'ont pas été rétrogradées. Donc je me suis souvent demandé « qu'est-ce que je faisais de mal ?»
Est-ce que ce n'est pas une question de jeunesse aussi ?
Mais certainement, évidemment, aujourd'hui, je ne serais pas dans la même position. Quoique, il y a quand même des choses encore aujourd'hui qui se passent et je n'arrive pas à réagir. Je dis rien parce qu'en fait, ce n'est pas mon tempérament. J'ai du mal à... Mais vous parliez tout à l'heure du rejet. J'ai du mal à être rejetée. C'est-à-dire j'ai très envie que les gens m'aiment bien. Donc, je vais avoir tendance à aller dans leur sens.
Mais c'est une question de socialisation aussi. En tant que femme, on est quand même plus socialisée.
Oui.
À faire bonne figure, à être polie, à pas froisser, à pas crier.
Oui, c'est ça. Et puis surtout, alors pourtant, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que j'ai vraiment deux personnalités distinctes. J'ai la mienne dans la vie, où j'ai assez confiance en moi, j'ai aucun problème à repousser les gens, etc. Et celle au travail, comme justement ce syndrome de l'imposteur qui est tellement ancré chez moi que je me dis, j'ai déjà tellement de chance d'être là, vu que je suis nulle, que concrètement, si je réplique, ils vont se rendre compte qu'en fait, je suis une arnaque. En fait, c'est vraiment ça. Et donc, je me suis souvent posé cette question. Je me suis dit, mais est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Et un jour, j'en ai parlé avec une copine qui est un peu plus âgée, qui a plus d'expérience que moi et qui me dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi tu te poses cette question. C'est plutôt à eux de dire, bah, ouais. J'arrête tout simplement de me comporter comme ça. Je ne suis pas coupable des agissements des hommes.
Et encore une fois, là, je rajoute une expérience personnelle à la vôtre. À mes yeux, c'est quand même aussi une question d'expérience. C'est qu'on ne s'imagine pas. Enfin, moi, vraiment, ça m'est déjà arrivé, cette histoire, quand un rédacteur en chef me parle de sa vie personnelle, on ne s'imagine pas que ça va déboucher sur du harcèlement sexuel. On se dit, bah non, je crée un lien sympa.
Exactement,
avec mon chef.
Il se confie à moi, on va avoir une relation privilégiée, blablabla.
Et donc, c'est une très bonne chose. Et en fait, on a, c'est vraiment ce que vous décrivez. Encore une fois, je pense que beaucoup de femmes se retrouveront dedans. C'est un apprentissage pour arriver à naviguer dans ce monde d'hommes, tout en ne se faisant pas violer, en ne se faisant pas agresser, en ne se faisant pas trop humilier, en arrivant quand même à monter. Ouais,
c'est ça.
Et c'est une espèce de position très inconfortable qui, je pense...
Et c'est surtout, et ça vraiment, c'est quelque chose qui a été important dans la lecture des hommes qui a été faite de ce livre, c'est tellement d'énergie. S'il savait à quel point j'en ai ras-le-bol de réfléchir à ma position physique dans une salle, parce que je sais que si je me mets trop à côté d'un tel, bah, je vais avoir une main aux fesses, que si jamais lui, je parle avec lui, bah, je sais qu'il va me dire un truc sur ma tenue ou sur mon visage. Et donc, c'est énormément d'énergie. Et en fait, les hommes, eux, ne se rendent pas compte, évidemment, puisqu'ils ne vivent pas, donc c'est normal qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais moi, il y a eu des moments où j'avais juste envie de travailler. J'avais juste envie de penser à mon travail et pas à toutes ces stratégies-là. Bon, oh là là, mon Dieu, lui, il ne faut pas que je m'approche, etc. Et en fait, voilà. Et la lecture des hommes, elle est intéressante parce que ceux qui sont revenus vers moi après la lecture m'ont dit « Je ne me rendais pas compte de ça, de ce truc-là. »
C'est pour ça que c'est important, encore une fois, qu'il y ait...
Que les hommes
pas que les femmes. Oui, exactement, mais que ce ne soit pas que les femmes exactement. Qui s'intéressent à ces sujets. Et à Blast, on insiste là-dessus, sur les sujets de manière générale autour des droits des femmes. Ce n'est pas qu'une affaire de femmes.
Bien sûr.
C'est aussi, et peut-être même surtout, en fait, une affaire d'hommes qui peuvent nous éviter beaucoup de problèmes. Alors, vous décrivez le sexisme dans les rédactions. On ne peut pas y échapper, mais il y a aussi ce sexisme de la société, en fait. Tout simplement que vous subissez en tant que personnalité publique, en tant que personnalité exposée. Vous revenez sur un autre épisode qui est très révélateur. C'est un jour où vous avez oublié vos lentilles de contact.
Oui.
Et on voit, là, vous avez des lunettes sur la table. Sans vos lentilles de contact, vous ne voyez rien. Vous avez besoin donc de lunettes. Donc, pour la première fois, vous mettez des lunettes en plateau. Et en sortant, après l'émission, vous vous rendez compte que c'est devenu un des sujets les plus commentés sur les réseaux sociaux. On vous prête un look un peu de secrétaire salope.
Oui, c'est ça qui revient.
Et ça plaît beaucoup. Mais les gens me disent très tranquillement sur les réseaux sociaux. Oui. Ça plaît donc beaucoup aux spectateurs de l'émission. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vos supérieurs qui vous félicitent et qui vous disent « Très bonne idée, ces lunettes, ça fait parler, ça nous fait de l'audience, très bien. » Et vous avez l'honnêteté d'avouer que sur le coup, vous baignez tellement dans cette culture, vous ne vous sentez même pas offensé. Vous vous dites au contraire « Ah bon, bah, très bien, on va faire attention à moi, finalement, c'est peut-être une bonne idée. » Et vous renouvelez ce choix vestimentaire plus tard, cette fois-ci volontairement. Et c'est seulement au bout de quelques semaines, à force de vous faire traiter de secrétaire salope, que vous réalisez que ça vous met, ça vous rend inconfortable, que ça vous met pas à l'aise et que vous n'en pouvez plus en réalité. Mais ce qu'on voit, c'est que vous êtes en permanence réduite à votre physique à un tel point que vous l'avez intégré et que vous avez intégré que c'était normal et que ça faisait partie de votre travail.
Non, et puis non seulement je l'ai intégré, mais en plus je suis flattée. Je suis flattée que les gens disent que je suis... Alors, en plus, j'allais dire, disent que je suis jolie. Non, parce que vraiment, c'est
pas ce qu'on veut dire.
Clairement très, très sexuel. Donc, c'est... oui, que je suis baisable, en fait. C'est ça, en fait. Donc, je suis flattée. Et puis surtout, j'existe enfin. Personne ne me parlait sur cette émission. Personne. Donc, tout d'un coup, je deviens quelqu'un d'important dans l'émission, puisque je suis le sujet le plus commenté de l'émission. Donc... tout d'un coup, je deviens quelqu'un d'important. Donc, c'est ça, c'est cette position-là qui est compliquée. Et alors, si je suis tout à fait honnête, je mets mes lunettes pendant quelques semaines et c'est une discussion avec mon mari, comme quoi, vraiment, le féminisme, c'est une affaire de femmes et d'hommes ensemble, qui me dit, tu ne peux pas tenir des propos sur le patriarcat, sur la place des femmes à la télévision et jouer de ça à ce point-là. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais il a raison, je ne peux pas le faire. Donc, du coup, j'ai arrêté de mettre mes lunettes. Quel combat!
Non, mais en même temps, c'est quand même important de souligner ce paradoxe. C'est-à-dire qu'en même temps, si on joue de ça, on va être blâmé par la société. On va être vu comme une femme voilà, qui ne serait pas de bonne morale. C'est extrêmement stigmatisé. Et en même temps, si on n'en joue pas, eh bien, on est transparente. Oui, c'est ça que vous décrivez. Donc, c'est une espèce de tous les cas, on perd. Et c'est important de souligner ce paradoxe-là. Et alors, vous allez plus loin sur la question du physique des femmes à la télévision. Vous expliquez que si on regarde avec un peu de recul les figures du journalisme sportif féminine, eh bien, on se rend compte que contrairement aux hommes où il y a quand même plus de diversité physique, les femmes sont quasiment toutes les mêmes. Vous le dites, hein, elles sont comme vous, elles sont blanches, minces, brunes ou blondes et belles à regarder.
Paris Match a publié une photo double page de journalistes de sport. Dans le fait d'avoir demandé à des journalistes de poser en robe talons aiguilles, qui ne sont pas oubliés quand même, hein, En plus, là, avec une jambe dénudée, c'est-à-dire on est dans la sexualisation.
C'est moi, la jambe dénudée.
De l'apparence, les épaules nues. Non, mais on est dans la sexualisation. On veut exacerber le fait que, certes, elles sont journalistes de sport, c'est-à-dire dans un domaine masculin, mais ce sont quand même des vraies filles. Mais pourquoi devrait-on en douter ?
Pourquoi est-ce qu'on fait ça avec les femmes et pas avec les hommes ?
Mais j'aimerais tellement avoir la réponse. En fait, c'est la question que je pose dans le livre. C'est quelle est l'image que nous, à la télévision, devons représenter pour les gens qui regardent ? Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, ben, en fait, ils veulent une femme qui est là, qui parle pas trop, qui pose quelques questions, puisque si elle pose des questions, ça veut dire que bon, elle sait pas vraiment, donc ça passe, et qui ne fait pas trop de vagues, qui sourit et qui accepte...
Qui est bonne humeur.
Qui est de bonne humeur, qui est joyeuse. Voilà. Et effectivement, quelqu'un qui n'est pas très racisé, et qui n'est pas forte, et qui... Voilà.
Mais c'est un type de physique. C'est un type de physique qui est représenté. Ben,
pour le coup, c'était avec une copine journaliste sportive. Un jour, on avait bu un peu d'alcool et on a commencé à se dire « Mais attends, mais c'est vrai quand même, on se ressemble toutes si tu regardes. » Et on avait regardé vraiment. On avait tapé toutes les présentatrices de télévision, de sport, et on s'est dit « Mais en fait, on est toutes les mêmes. »
Mais d'ailleurs, cette mentalité, on la comprend bien à un moment dans le livre où vous décrivez le fait qu'ils veulent trouver une nouvelle femme journaliste pour remplacer quelqu'un et ils vont choisir des mannequins.
Ouais.
Parce que dans leur tête, de toute manière, alors qu'on est sur un plateau de journalisme sportif, donc il faut des compétences, des connaissances en sport, a priori, bien, de toute façon, le seul intérêt des femmes journalistes, c'est le moment où je trouve qu'ils se trahissent un petit peu dans une rédaction, et bien, c'était d'être jolie, et donc, puisqu'il n'y a plus la femme journaliste, autant prendre une mannequin à qui on va donner un prompteur,
exactement.
Et puis ça sera la même chose.
Exactement.
Donc ça montre bien ce rôle de femme de plateau. C'est la femme du plateau, la jolie femme qu'on
est
content de regarder.
Mais concrètement, moi, je les excuse. Parce qu'en 2008-2009, on n'est pas encore dans ce stade du féminisme d'aujourd'hui. Donc, il y a cette question d'absolument féminiser les plateaux de sport. C'est vraiment, ça devient quelque chose d'important. Puisque vraiment, je pense
avant,
que...
avant, ils sont qu'entre mecs.
Ils sont qu'entre mecs. Et la société avance. Donc, forcément, les patrons de chaîne disent, bon, il faut quand même qu'on s'y penche, nous aussi, à cette parité qui n'existe absolument pas.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans le canal Football Club. Le rendez-vous que nous vous donnons désormais chaque dimanche soir. C'est en clair, c'est en public, c'est en direct à partir de 19h40 avec Isabelle Moreau.
Et donc, ils ont tenté des choses, mais ce que je dis, c'est que nous, on est arrivés juste derrière ces femmes-là qui étaient donc des mannequins qui faisaient très bien leur boulot, mais qui n'étaient pas journalistes, qui ne sortaient pas d'école de journalisme. Nous, on arrive juste derrière. Va t'imposer dans une rédaction où pendant 5 ans, on t'a seriné qu'une femme est là pour faire jolie. Évidemment que quand je suis arrivée, les gens disent « Non, mais elle y connaît rien, c'est sûr qu'elle y connaît rien. » Alors que pourtant, j'ai fait les mêmes études qu'eux. J'ai Bac+5 comme eux. Je suis spécialisée dans le sport comme eux. Donc, il n'y a absolument aucune différence entre nous.
Non, mais le degré de présomption d'incompétence, encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'ai pu connaître dans le journalisme politique, le journalisme économique, où il y a déjà cette présomption d'incompétence. Mais j'ai l'impression que ça atteint des degrés dans le journalisme sportif.
Parce que c'est le bastion des hommes. Les Jeux olympiques étaient réservés aux hommes jusqu'en 1967, je crois. Il faudrait vérifier la date, mais il me semble que c'est ça.
Oui, donc,
c'est hyper tard. C'est vraiment... Les femmes n'avaient pas le droit de participer aux Jeux Olympiques avant ça.
Et donc, on pense que si une femme réussit, c'est forcément lié à son physique. Encore une autre anecdote.
Ou parce qu'elle a couché.
Ou parce que... J'allais y venir, justement, en fait, ma transition. Vous évitez cette anecdote où il y a une très, très belle jeune femme, journaliste, toute jeune, qui arrive dans la rédaction et qui veut faire ses preuves. Et qui est dans cette position, je pense, où beaucoup de femmes ont été, où on est au début, on n'est pas prise au sérieux, donc on est prête à tout donner pour réussir.
Montrer qu'on a notre place.
C'est ça. Et elle obtient une interview avec un très grand joueur, une interview que personne n'avait réussi à obtenir jusqu'à présent. Donc elle arrive toute fière avec son interview en pensant gagner sa place, et en fait elle gagne surtout une place de réputation de salope. Oui. Tout le monde pense qu'elle a fait une fellation à ce joueur pour pouvoir obtenir l'interview, parce qu'on n'imagine pas qu'elle ait pu obtenir cette interview autrement.
Ouais, c'est ça.
Mais ça, c'est quand même...
Mais ça, il n'y a pas que ça. Il y a tellement d'autres histoires, si vous saviez, mon Dieu, mais...
Oui, déjà, là, on en a un petit concentré.
Non, mais c'est ça. C'est la seule raison pour laquelle elle y est parvenue et pas les autres, c'est parce qu'elle l'a forcément sucée. C'est la seule explication. Mais ça les rassure de se dire ça. Pourquoi elle y est arrivée et pas moi ? Pourquoi a-t-elle réussi à avoir ce joueur en interview et moi, j'y suis pas arrivée ? Je sais pas si c'était français ce que je viens
non,
de dire.
Non, si, mais... c'est très français.
Et donc, bah, forcément, c'est facile de se cacher derrière ça. C'est-à-dire que la seule raison, c'est parce qu'elle a donné quelque chose que moi, je suis incapable de donner. C'est-à-dire une rétribution sexuelle.
Au tout début de Beansport, il y a un collègue qui est venu et qui m'a dit, voilà, il y a une rumeur qui circule. Il paraît que t'es là parce que t'as couché avec un tel. Enfin, moi, j'étais là, j'étais... Pardon ? Moi ? Enfin, non, quoi. Enfin, hallucinant. Enfin, je veux dire... Je sais même pas quoi te dire, là, tu vois. Encore aujourd'hui, je suis choquée, quoi.
Voilà.
Donc, encore une fois, là, on a parlé de l'ambiance. C'est-à-dire tous ces petits détails qui sont en fait pas des détails et qui jouxtent notre vie de journaliste et que, je pense, l'extrême majorité des journalistes femmes en France ont vécu au moins un de ce type d'épisode à un moment. Donc, ça crée une ambiance, ça crée un terrain, et c'est ce terrain-là qui va permettre des agressions sexuelles, pour le coup, qui sont parfois filmées. C'est ça qui est assez incroyable, qu'on voit notamment dans votre documentaire. Vous le dites, le baiser forcé à la télévision, aujourd'hui, on sait que c'est une agression sexuelle. Mais à l'époque... Ça fait rire tout le monde parce que voilà, on est dans cette ambiance, sexiste. Vous décrivez une agression sexuelle que vous avez vécue, quelqu'un qui va soulever votre jupe et vous allez vous retrouver fesses à l'air devant un public de 300 personnes. Alors vous voudrez porter plainte, mais on va vous en dissuader et vous expliquer que ce qui vous a mis le plus en colère, c'est pas tant qu'on vous ait agressé sexuellement de cette manière, mais que des personnes de votre rédaction aient protégé cet homme. Pourquoi est-ce que c'est ça qui vous a mis le plus en colère ?
Parce que l'agression en elle-même, moi, sur le moment, je ne me suis pas sentie agressée, même si c'est une agression sexuelle. Je me suis sentie humiliée. Et cette humiliation-là, en fait, quand je l'ai partagée autour de moi, j'ai senti donc déjà que j'étais isolée et complètement seule, que personne autour de moi, puisqu'il n'y avait que des hommes, n'avait compris ce qui s'était joué chez moi et cette humiliation. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne le vivent pas. Et non, ce qui m'a dérangé, c'est que je trouve que on dit toujours que voilà, mais portez plainte, les filles, etc. Mais on se rend pas compte que quand on le fait, il se passe rien. Alors après, évidemment, j'espère que ça avance dans un autre sens. Mais moi, j'ai pas rien fait. Je suis allée me plaindre à ma direction, je suis allée me plaindre au CSE même, qui a porté l'affaire 2 ans plus tard dans un comité exceptionnel. Mais je n'ai jamais été au courant de ce comité-là. Donc, j'ai fait les choses comme il faut. J'ai dit et il ne s'est rien passé. Alors, je le dis de manière assez claire, c'est que à ce moment-là, l'auteur de cette agression est tombé malade, gravement malade, vraiment. Ça a été très, très chaud pour lui. Donc, j'ai tout de suite rétropédalé en me disant, mais... Bah, de toute façon, là je ne vais rien faire. Enfin, il est tellement en mauvaise santé.
Et vous êtes en compassion, quand même, avec votre agresseur.
Mais complètement, mais parce que moi, je n'ai pas envie qu'il meure, j'ai envie qu'il s'en sorte. Je me dis, non, mais bon, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, il va déjà tellement mal. Donc, évidemment, je ne fais rien. Et puis, je ne me dis même pas, ah oh, mince, je me dis... Enfin, j'oublie cette histoire dans ma tête. Ce qui m'a énervée, c'est le fait d'en reparler plus tard, quelques années plus tard, parce que tout le monde était au courant et que tout le monde fasse comme si « Ah, je découvre !» Alors que non, c'est pas vrai. Et puis, la société avançant, les gens m'ont dit « Ah oui, bah, on te soutient si tu veux. » Alors que c'était les mêmes qui, 3 ans auparavant, m'avaient dit « Non, mais si tu portes plainte, ça va nuire à l'émission. Ça va nuire à la chaîne. » Et donc, ça va tenir à toi.
Lui raconte que c'est arrivé.
Oui, lui dit qu'il s'en souvient
que
pas.
Que vous étiez en pantalon. Oui. Que... Enfin, il s'en souvient pas. Si, il s'en souvient et il dit que ça n'est pas arrivé. Il se souvient de ce jour-là et que vraiment, vous inventez.
À la base, il dit qu'il s'en souvient pas. Et ensuite, il y a eu quelques histoires. Voilà, j'ai été mise au courant par des avocats qu'ils cherchaient à prouver que j'étais en pantalon.
Et vous arrivez à prouver avec des images que...
Ben, j'ai même pas eu besoin, en fait, puisque il a dû regarder. Enfin, je sais pas si les avocats ont dû regarder. Je sais pas comment ça s'est passé, mais finalement, il n'y a pas eu de suite à cette histoire.
Mais ça montre bien, encore une fois, que c'est pas du tout une libération de la parole dont on a besoin, oui. C'est une libération de l'écoute.
Oui, c'est ce que
Et c'est quelque chose qu'on répète aussi ici sur le plateau de Blast. C'est que c'est une émission qu'on avait faite avec Violaine de Philippis Abbat, que je vous invite à regarder, l'avocate, qui montre le parcours du combattant, d'une femme qui veut porter plainte pour quelques violences sexistes que ce soit, même pas que des viols. C'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué. Ce que vous décrivez, c'est qu'il y a des obstacles absolument partout.
Mais oui, parce
pour
que ce
vous
que je dis, c'est
pas
que
parler.
Moi, j'ai même pas porté plainte. Donc, de ne pas porter plainte et de devoir prouver que je portais une jupe ce jour-là, je me dis, mais j'ai même pas porté
Qu'est-ce
plainte.
Qu'est-ce qui se serait passé, en fait
Qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait
Et alors, Bien, en 2021, la coupe est pleine. Vous décidez de faire ce documentaire qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Canal+, mais qui, à l'époque, donc est produit par Canal+, il va se passer deux choses. Premièrement, il va y avoir des extraits censurés. C'est quand même paradoxal pour un documentaire sur les violences sexistes et la libération de la parole. C'est qu'il va y avoir un extrait, je pense qu'on peut le nommer, qui met Pierre Ménès en cause.
Oui.
Et ça n'arrange pas la chaîne Canal pour laquelle il travaille. Et donc, ils vont juste enlever l'extrait. Vous, vous acceptez parce que vous dites « bon, au moins, ça sort ». Et que votre peur jusqu'à la fin, c'est que ça ne sorte jamais, en fait, tout ce travail que vous avez réalisé. Et ça va sortir dans d'autres médias. L'information va fuiter, notamment dans le média Les Jours, qui va révéler ça. Ça ne va pas empêcher de ne pas intégrer l'extrait en question. Et puis, juste après la sortie du documentaire qui fait grand bruit, vous dites, vous recevez des centaines de messages, on en parle partout dans les médias, c'est une déflagration, ça participe au mouvement MeToo dans le journalisme. Mais ils retirent tout simplement le documentaire de la plateforme. Mmh. Et ça, vous ne l'expliquez pas.
Non, mais j'ai même pas été mise au courant. C'est un jour, quelqu'un m'a dit « Tiens, j'aimerais voir ton documentaire ». C'était 3 semaines, 1 mois grand max après la diffusion. Il me dit « Mais je le trouve pas ». Donc, je suis allée sur la plateforme Canal et j'ai vu qu'il n'y était plus. Et donc, bon, bah, je me suis dit bah, « ils l'ont enlevé ».
Et donc là, on est en deux... Enfin, c'est vraiment... Pour moi, ça participe à bâillonner les femmes, littéralement. Il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné dans ce documentaire. Il était absolument introuvable. Là, vous avez donc décidé d'écrire un livre.
Parce que l'objet reste.
L'objet reste. Ouais. Et je veux garder une trace de ce qui s'est passé, avoir quelque chose sur lequel j'ai le contrôle aussi. Et vous avez commencé la promotion, vous avez commencé à en parler, et soudainement, le documentaire est réapparu, là, très récemment, sur la plateforme de Canal+.
C'est, voilà.
Vous n'avez pas été mise au courant.
Non. Non.
Vous avez découvert
ça. Je l'ai appris par un journaliste qui m'a interviewé et me dit « Mais j'ai regardé votre documentaire hier. » Je me suis dit « Le non. Menteur C'est pas possible !» Et je lui dis bah, « Vous l'avez eu où ?» Il me dit bah, « Sur MyCanal. » Et donc, j'étais au téléphone avec lui, je suis chez moi, je vais sur MyCanal et je vois que le documentaire est là.
Mais en fait, ce qu'on comprend encore une fois, c'est que c'est pas parce qu'on fait un documentaire que c'est bon, la parole est libérée. Je le disais en introduction, je suis convaincue qu'on est aux prémices de la libération de la parole dans le, enfin encore une fois de l'écoute, dans le milieu du journalisme, parce qu'il y a encore des obstacles. Il y a une autre séquence qui m'a particulièrement marquée, qui est très récente. Vous êtes face à Michel Drucker sur le plateau de France 2, qu'à l'époque, on ne parle pas du tout de votre documentaire, ce n'est pas du tout le sujet. Non mais, il faut quand même le dire, ce n'est pas du tout le sujet. Et il va vous invectiver devant tout le monde.
Vous avez vraiment souffert avec les copains des sports, les mecs des sports?
Non.
Non, mais ils ont vraiment, ils ont vraiment des attitudes.
Bah, j'étais pas la seule.
Inconvenantes, vraiment.
Bah, y en a eu beaucoup quand même.
Comment est-ce que vous, parce que vous rigolez et vous dites non. Ben, vous êtes. En fait, c'est pour moi l'illustration de cette espèce de gêne face au sexisme.
Parce et ben
que...
voilà. Et c'est exactement ça. Cette scène, c'est exactement cette stratégie-là que j'ai mis en place pendant toute ma vie, c'est-à-dire de rigoler bêtement quand je suis gênée et que je ne sais pas quoi faire.
Oui, parce que c'est absurde.
Parce que évidemment que la chose que j'aurais dû dire, c'est mais vous en doutez. C'est
Et le mettre face à sa contradiction.
Mais je pense que si je lui avais dit ça, il m'aurait dit « mais pas du tout », parce que je l'ai eu au téléphone après Michel Drucker. Il a cherché à me joindre plusieurs fois. Je n'ai pas voulu répondre au début parce que j'étais trop énervée. Et puis finalement, j'ai répondu et il m'a dit « j'ai regardé la séquence ». Et effectivement, parce que je n'ai pas répondu parce que je me suis dit qu'il allait me dire « vous avez mal compris ». C'était pas du tout ce que je voulais dire. Vous êtes passé à côté.
Tout Internet a compris très bien ce qu'il voulait dire, hein, parce que ça a fait un
tout Internet n'a pas compris. Vous avez mal compris, etc. Et en fait, pas du tout. Il a été franchement désolé. Il m'a dit j'ai re-regardé la séquence et effectivement, on dirait que je suis en train de douter de votre parole, alors que j'étais vraiment en train de me dire mais la pauvre, vraiment. Voilà. Mmh,
okay. Très bien. Moi, je crois que c'est surtout l'importance aussi d'avoir une pression publique et une opinion publique aussi qui est du côté des femmes. On voit la différence majeure que ça a pu jouer dans le cas de l'affaire Depardieu avec Judith Godrèche. On voit très bien le traitement qui a été réservé à Adèle Haenel pour des faits extrêmement similaires quelques années plus tôt. Judith Godrèche, elle, eh bien, elle est crue parce qu'elle a aussi le public de son côté et que c'est aussi bah, des mouvements de société.
Enfin, elle est crue, mais quand elle fait son discours au César et que plus personne n'en parle derrière, c'est...
Oui, alors elle est, comment dire, elle n'est pas blâmée unanimement par beaucoup, une grosse partie de la société.
Non, mais est-ce que ça change ? Je ne sais pas.
En tout cas, ça pose la question des luttes féministes. C'est ça qui sous-tend aussi votre livre. C'est qu'une fois qu'on lit ça, on se dit d'accord, donc il y a vraiment du sexisme inadmissible et insupportable dans le milieu du journalisme, notamment du journalisme sportif. On comprend vraiment... Et j'invite les hommes qui se demandent à quoi ça ressemble, en fait, une vie de femme dans un milieu d'hommes, à lire ce livre. On comprend vraiment vos tourments, les difficultés auxquelles vous faites face. Mais à la fin, on se demande comment on fait pour que ça change. Puisque même quand on va porter plainte, même quand on fait un documentaire, c'est compliqué, en fait. Ça prend beaucoup de temps. Et alors, vous déplorez le fait que les luttes féministes seraient trop radicales, ou en tout cas que celles qui les mènent soient considérées comme hystériques. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup de certaines féministes. Et donc, que ça brouille leur message. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que celui qui a tort, c'est pas la société qui frappe les féministes, plutôt que les féministes elles-mêmes, qui, à un moment, effectivement, sont en colère, en fait, pour une partie d'entre elles?
Alors, c'est ce que je dis. Et vraiment, dans mon entourage personnel très, 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 très proche, j'ai un exemple concret. C'est quelqu'un qui m'est extrêmement proche et qui, quand il entend des femmes comme Alice Coffin ou Sandrine Rousseau, qui sont des représentantes du féminisme aujourd'hui, dit « Ah non, mais j'écoute même pas, parce que c'est n'importe quoi. » Alors que, parfois, je lui dis « Mais écoute vraiment ce qu'elle dit. Imagine que c'est quelqu'un d'autre. Écoute. Oui, non, mais ce qu'elle dit, oui. Mais je peux pas, c'est trop. »
C'est la manière. C'est
la manière, les choses qui ont été dites précédemment, parfois quelques maladresses aussi de leur part, mais comme tous les humains de la Terre, voilà.
Parce que Alice Coffin, pour reprendre son cas, qui est donc une journaliste, enfin ancienne journaliste, militante aujourd'hui, qui vraiment a vu sa parole être déformée. Il y a eu une ligne de son livre où elle dit qu'elle voudrait plus lire les hommes, et ça
c'est
a été complètement sorti de son contexte.
C'est typiquement cette phrase-là qui a conduit mon amie à ne plus vouloir l'entendre. Mais n'importe quoi, tu te rends compte, etc. Vous êtes en train de faire... Une guerre des sexes, séparer les hommes et les femmes, etc. Moi, ce que je dis, c'est que je ne suis absolument pas misandre. J'aime les hommes autant que les femmes. J'aime encore plus les hommes quand ils me disent « j'ai compris ton livre ». Alors là, vraiment, c'est le max du max. Mais, et en fait, ce que je dis, c'est que la lutte radicale... Moi, je me considère, moi, comme une féministe radicale. La vérité, c'est que j'ai des points de vue très, très radicaux.
Radical, on rappelle, c'est à la racine. Hein. C'est ça, la définition
oui,
de radical.
Bien sûr.
C'est d'être proche de la racine de son idée. C'est pas non plus... Ça veut pas dire excessif.
Mais aujourd'hui, on sait très bien que le féminisme est considéré parfois comme trop radical, trop extrême, trop misandre, trop les uns contre les autres. Et donc, ce que je dis, c'est que... ce que j'essaye de faire, c'est de faire les choses en douceur. Montrer aux gens que... sans être hystérique, comme ils disent, sans être radical, comme ils disent, on peut entendre les choses qui se passent et qui sont des choses réelles et qui sont des choses qui nous mettent en colère. Et parfois, on crie parce qu'on est vraiment en colère, parce que personne ne nous écoute.
Non, mais c'est vrai que le côté de la colère, elle n'est pas considérée comme acceptable par une grande partie de la société et notamment des médias. Alors qu'honnêtement, quand on lit votre livre... Moi, je me demande comment vous êtes aussi calme, en fait.
Mais parce que
justement... vous avez toutes les raisons de ne pas l'être. Et vous avez toutes les raisons...
Parce que j'ai envie que les gens comprennent. J'ai envie que les gens, même ceux qui sont radicalement à l'opposé de moi, comprennent. Et je me dis, si je leur crie dans les oreilles, ils ne vont pas comprendre. Alors que si je leur dis, mais regarde ça. Peut-être que ça va apporter quelque chose d'autre. Mais bon, après, peut-être que je me trompe. Hein.
Non, mais moi, j'aimerais souligner quand même l'espèce de... ce que je considère être une double peine pour les femmes victimes de violences, c'est-à-dire quasiment toutes les femmes, en tout cas victimes de sexisme, c'est que non seulement on subit quelque chose qui est dur à vivre, parfois qui est traumatisant. D'ailleurs, vous racontez un viol au début de votre livre quand vous étiez adolescente. C'est-à-dire que c'est une succession d'événements sexistes, voire traumatisants, que vous subissez tout au long de votre vie, encore une fois, comme beaucoup de femmes. Mais en plus, quand vous en parlez, on exige de vous
que je sois sympa.
Que vous soyez sympathique, douce. C'est vraiment le bon mot, parce que je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui des féministes, c'est qu'elles soient douces. C'est qu'elles aient une manière de l'exprimer qui n'offense pas, qui ne mette pas mal à l'aise, qui ne dérange pas trop, parce que sinon, ça la fout mal en soirée, quoi, de parler de viol ou de violence sexiste, ça met tout le monde mal à l'aise. Et finalement, Moi, je comprends complètement les femmes qui, à un moment...
Mais moi aussi.
Disjonctent, en fait. Elles disent, mais on n'en peut plus, c'est pas possible. Et je pense qu'on a tous eu des moments où on va pas le faire médiatiquement, mais on est fatigué en fait, de ce système-là. Et donc, j'aimerais terminer sur une question, pas des moindres, la question de la fin, parce que vous et moi avons un point commun. Lorsque nous pensons un peu aux boomers en chef, aux machistes de base, nous employons en exemple le prénom de Jean-Michel. C'est ainsi le pauvre. Que dans votre livre, vous imaginez une conversation entre les directeurs de chaînes qui ont la responsabilité de mettre des femmes à l'antenne et qui ne peuvent pas imaginer d'autres femmes que des mannequins et qui vont donc écrire ce fameux prompteur. Et donc, d'autres hommes qui régiraient cette rédaction et vous dites, c'est Jean-Michel. Alors, au-delà du sexisme évident de leur manière de concevoir le journalisme, pourquoi est-ce que vous avez choisi de stigmatiser les Jean-Michel ? Je fais pareil et je me dis c'est horrible
c'est
en fait
horrible,
pour le coup.
Plus,
c'est pas bien pour les Jean-Michel.
Non mais en plus mon père s'appelle Jean-Marc et on a un très bon ami de la famille qui s'appelle Jean-Michel qui est quelqu'un.
On a un ami Jean-Michel.
Non mais qui a 70 ans et qui est ultra féministe. Donc vraiment c'est atroce parce que je sais pas pourquoi parce qu'en plus vraiment cette séquence là. Je l'ai écrite sans réfléchir. Donc vraiment, le Jean-Michel, il est sorti froidement comme ça. Donc pauvre Jean-Michel. Non mais en plus, j'ai rien contre Jean-Michel. Mais non, mon père s'appelle Jean-Marc. Non mais là, on dirait vraiment, je suis pas raciste, j'ai un ami noir.
Non mais je vous dis ça parce que moi, c'est un terme que j'emploie parfois dans des médias ou pour donner parfois les exemples de discussions que peuvent avoir des jeunes avec des plus âgés. Moi aussi, je disais Jean-Michel. Et un jour, à la fin d'une conférence, un Jean-Michel est venu me voir et m'a dit c'était dur toute la conférence.
Ah,
donc
non,
maintenant, j'essaie de varier un petit peu les prénoms. Mais c'était pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, parce qu'encore une fois, c'est un livre qui est dur à lire, honnêtement.
Ah bon, vous trouvez ?
Pas qui est dur au sens qui se comprend très bien, mais qui est...
Oui, mais qui est...
Qui ramène à quelque chose, quand même, un fait de société, en fait, oui. qui bien au-delà de votre cas individuel, est difficile à entendre et qu'on doit absolument... prendre en considération urgemment si on veut espérer que les choses changent. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup,
Mais merci
Marie
de votre invitation.
Je rappelle que votre livre « Je suis la femme du plateau » est donc disponible aux éditions Stock.
Merci.
Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un don unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et Peertube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.